Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa
mercredi 12 mars à Marseille sur Radio Galère. Eh bien, figurez-vous que je suis seule au micro parce que Françoise est allée voir sa toute nouvelle petite fille à Paris. Et par contre, en face de moi, j'ai Louise et Zélie à la technique. Donc, merci. Et aujourd'hui, plein de choses. Mars, Marseille, c'est le mois des giboulées, des averses, des douches froides. Résistons. Par exemple, samedi 8 mars, même si le rassemblement au Vieux-Port était un peu guindé pour la journée des droits internationaux des femmes, à la Joliette, la ZOF, la zone d'occupation féministe, c'était beaucoup plus festif, beaucoup plus sympa. C'est vrai que le défilé a été très bien, du Vieux-Port à la Joliette, plein de monde, plein de bruit, plein de choses sympathiques. Et alors, à la Joliette, oui, des stands, des différents mouvements, des différentes associations, et le concours de l'affiche la plus sexiste. Alors ça, j'ai vraiment bien aimé, ils avaient fait une grande ligne, je crois qu'il y en avait 30 des affiches, alors en effet, toutes plus sexistes les unes que les autres, ou même quelquefois racistes, vous savez, du genre, on vous fait la promotion d'une crème qui fait la peau bien unie et, entre guillemets, bien, bien blanche. Enfin bon, voilà. Toujours est-il que, même moi qui suis quand même à l'affût de ce genre de choses, là j'en ai trouvé des bien sexistes, des pubs. Il y en avait une de Etam, une de Louis Vuitton. Alors vous allez me dire effectivement, LVMH, ça fait très très longtemps qu'on les boycotte. Mais Etam, peut-être pas si longtemps que ça. Donc la pub Etam, elle était gratinée. Donc évitons toutes ces images de la femme qui la découpe en morceaux et certains morceaux en particulier. Donc nous sommes des êtres entiers avec notre esprit en plus de notre corps et bien sûr nous prétendons penser. Nous pensons, nous lisons, nous sortons avec nos camarades masculins qui ont les mêmes pensées que les nôtres. Samedi prochain, il se passe à nouveau plein de choses, encore plein d'assemblées générales d'associations, mais il y a quand même au Salon Magalon, donc c'est 4 boulevard Magalon dans le 15e, un rassemblement dans les Salons Magalon pour le NFP, le Nouveau Front Populaire. Un certain nombre de réflexions, donc à partir de 14h jusqu'à 20h, nos camarades de la France Insoumise et peut-être d'autres tendances vont réfléchir à comment recréer un petit peu ce nouveau Front Populaire qui a quand même un peu du plomb dans l'aile. Donc, si ça vous dit, les Salons Magalon, 4 boulevard Magalon, à partir de 14h, vous pouvez toujours aller les voir et dire ce que vous pensez. Pendant ce temps-là, à Paris, samedi 15 mars, il y a le Salon du Livre Africain. Alors, vous allez me dire, OK, c'est à Paris, mais il doit y avoir un site, le Salon du Livre Africain, ça se trouve sur Internet. Donc, bien sûr, vous pouvez aller voir qui sont les invités, quelles sont les nouvelles parutions, et on aura ça dans, comme on dit, toutes les bonnes librairies d'ici peu. Et puis quand même, puisqu'on parle de sites et d'Internet, il y a eu plein de dessins de Banksy qui ont circulé avec en particulier des ironies, enfin des dessins très ironiques sur le pouvoir américain. Alors, il paraît que ce n'est pas des vrais dessins de Banksy, que c'est un peu des piratages. Il y a en particulier le dessinateur français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle My Stencil. My Stencil, c'est un street artist, un peintre de rue, un peintre de mur qui, quelquefois, en effet, détourne les dessins de Banksy ou fait des faux Banksy. Donc, je trouve qu'il a bien raison, après tout. Et là, il a fait des dessins sur Elon Musk et sur Donald Trump qui sont pas mal. Donc, allez voir si vous trouvez sur Internet ces dessins. Il y en a qui sont vraiment sympas. Et pendant qu'on parle d'expo, bah oui, en ce moment au musée d'histoire de la ville de Marseille, il y a toute une série. Alors, il y a des expositions qui en plus vont se terminer bientôt. En particulier une exposition sur le pont transbordeur. Moi, dans ma famille, on est très attachés au pont transbordeur. Enfin, ce pont qui a disparu en 1944-45, qui a été quand même un marqueur de l'horizon marseillais, et en particulier de l'horizon du Vieux-Port. Donc, une exposition sur le pont transbordeur au musée d'histoire de la ville de Marseille qui se termine avec le mois de mars. Des expositions au MUCEM aussi qui se terminent bientôt et qu'il est intéressant d'aller voir. Et alors au musée d'histoire de la ville de Marseille, là, il y avait une conférence hier sur un site, ils appellent ça un portail en libre accès sur l'histoire impériale, coloniale et post-coloniale de Marseille. Les universitaires de Aix-Marseille Université, avec les gens des archives et des musées, ont fait un super boulot qui était donc présenté hier. Et si vous cherchez sur Internet, le site qui s'appelle Mars Imperium, hein, comme en latin, Mars pour Marseille, bien sûr, Imperium pour l'Empire. Donc Mars Imperium, c'est un portail en libre accès qui donne des tas de choses. Vraiment, ça a été présenté donc hier. Il y a des foules de documents, de petits films, de documentaires, etc. sur Marseille impériale, Marseille coloniale au 18-19e siècle et avec, bien sûr, la fin du colonialisme au 20e siècle et l'histoire post-coloniale et décoloniale de Marseille. Et puis aussi, bien sûr, des tas de choses au cinéma, au théâtre, en particulier au Théâtre de la Joliette. Alors, au Théâtre de la Joliette, il y a ce week-end, vendredi soir et samedi soir, un spectacle sur le Liban. Je vais essayer de vous retrouver ça. Là, je tourne mes pages. C'est un document à avoir toujours sous la main, hein, le programme du Théâtre de la Joliette. Donc, vendredi 14 à 20h et samedi 15 à 19h, il y a un spectacle qui s'appelle Ordalie sur l'histoire récente du Liban et comment les habitants, et en particulier les jeunes de Beyrouth, ont vécu cette difficulté de vivre précisément au Liban à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Et puis juste la semaine d'après, les 20, 21 et 22 mars, un autre spectacle qui s'appelle Collision de Nasser Djemaï et qui raconte la difficulté de vivre aussi. Vous allez me dire, c'est pas gay, mais non, mais c'est pas grave. Justement, le théâtre, c'est cathartique, donc on vit des choses par le spectacle. Un spectacle donc de Nasser Djebaï, je disais, sur la difficulté de vivre en tant que jeune migrant dans la France contemporaine. Donc, allez voir les programmes de la Joliette. Et puis, quand même, on va en revenir aux livres. Ah ben oui, Livres et Amis, vous vous souvenez. Livres et Amis, c'est nous. Enfin, c'est moi aujourd'hui, Dominique, je disais, avec Zélie en face de moi. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un de mes petits péchés mignons, ce que j'appelle les livres de prolétaires. Il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour être écrivains au début, qui sont ouvriers, qui sont, peu formés dans notre école de la bourgeoisie et qui, quand même, ont une soif d'écrire absolument inextinguible. Et je vous en ai lu déjà, hein, des livres témoignages de ce genre, des livres témoignages sur la vie ouvrière, la vie pour les gens les plus modestes. Et là, je vais vous lire des extraits d'un livre de Guy Bollet. Ça s'appelle « Quand Dieu boxait en amateur ». Alors d'abord, Guy Bollet, il est né en 1952. Il a été maçon, ouvrier d'usine, chanteur de rue, cracheur de feu, acrobate, saltimbanque, directeur de cirque, funambule à grande hauteur, machiniste de spectacle, scénariste, chauffeur de bus, garde du corps et cascadeur. Avant, en effet, de devenir auteur à part entière et surtout dramaturge pour des compagnies de théâtre et de danse, parce qu'il a toujours été passionné de littérature, passionné de théâtre, passionné de spectacle, vous vous en êtes rendu compte. Dans ce qu'il avait fait, il avait d'abord été technicien du spectacle et puis il s'y est mis, étant donné qu'il adorait écrire. Il est devenu donc dramaturge de théâtre et il est l'auteur de deux romans. Fils du feu d'abord, et puis le dernier qui est paru, là, qui était paru en 2018, et dont on va lire les extraits, Quand Dieu boxait en amateur. Et Quand Dieu boxait en amateur a reçu un certain nombre de prix quand il est sorti comment ça s'appelle en français quand c'est une grande édition, enfin un grand format. En tout cas, c'est paru depuis en poche et moi, je l'ai bien sûr en poche en édition folio. Ce roman, qui est un vrai roman de Guy Bollet, est quand même inspiré d'un certain nombre de faits familiaux. Et quand Dieu boxait en amateur, vous allez voir, en fait, Dieu, c'est son père. Et en effet, il y a en exergue du roman une citation de Jorge Amado, le Brésilien bien connu, qui a écrit, lui, Bahia de tous les saints. Et Jorge Amado, à un moment dans son livre, il dit « Je veux être mon père ». Alors les autres, ses copains, se moquent de lui. « Qu'est-ce qu'il a fait, ton père ?»« Mon père, il a fait un tas de choses ». Et un peu comme Guy Bollet, je viens de vous le dire, a lui aussi fait un tas de choses, son père, avant lui, avait fait un tas de choses. Et en particulier, il avait boxé en amateur. Donc c'est évidemment l'explication du titre. Son père, c'était son héros, bien sûr, comme dans Victor Hugo. Et aussi son dieu, c'est ce qu'on trouve sur la quatrième de couverture. Il faut l'imaginer, mon père, ce héros, roi du monde et boxeur, assis dans la cuisine, ouvrir son dictionnaire et recopier des mots. Recopier des mots dont il se demande comment il va parvenir à les prononcer, à les tordre sous sa langue, pour construire des phrases aussi belles et volubiles que les fers emmêlés qu'il façonne dans son atelier. Parce que le père, il est forgeron. On va vous dire ça en lisant les extraits. Il est forgeron et il est boxeur amateur. Donc, on va s'intéresser à son histoire. Il y a un certain nombre de pages du début qui racontent l'histoire de l'enfance du père. C'est assez rigolo. C'est, je sais pas comment on pourrait dire, un genre de de tuilage là, de l'auteur Guy Bollet avec son père et son père avec son père. Alors en fait, son père, la deuxième génération si vous voulez, n'a pas connu la première parce que en effet, le grand-père de l'auteur est mort jeune et son fils ne l'a pas connu. Mais son fils s'était fait déjà toute une histoire sur son père. Donc c'est très rigolo cet entrelacement des histoires et des souvenirs et des anecdotes du fils, donc de l'auteur Guy Bollet, mais aussi du père et du grand-père qui ont eu des histoires, comme je disais, de prolétaires qui étaient vraiment intéressantes. Alors au début, Guy Bollet nous situe d'abord le cadre de l'histoire, il est de Besançon. Besançon, Victor Hugo, lui, il avait dit vieille ville espagnole. Ben oui, Besançon, c'est la capitale de la Franche-Comté. Et la Franche-Comté, il y a bien longtemps de cela, appartenait au royaume d'Espagne, enfin du moins à l'empire de Charles Quint. Donc Besançon n'était plus du temps de Gibolet ni de son père une vieille ville espagnole. C'était une petite ville de l'est de la France, mais dont on nous dit quand même que c'était la capitale de la Franche-Comté et de l'horlogerie, la préfecture du Doubs, et donc la ville natale de Victor Hugo et des frères Lumière. Bah oui, les frères Lumière, moi je savais plein de choses sur eux, mais je ne savais pas qu'ils étaient nés à Besançon, vous voyez. Donc avant d'avoir leur atelier et studio de cinéma à La Ciotat, eh ben, ils étaient nés à Besançon. Alors on va nous parler un petit peu de Besançon. Et puis ensuite de ce père et de ce grand-père qui avaient de drôles d'histoires. Commençons donc avec Besançon. On nous dit, enfin Gibolet plus exactement, nous dit que, comme souvent, le centre historique, c'est un peu le centre chic. Et puis, en bas de ce centre historique, qui est sur la colline, disons, il y a la rivière, le Doubs, et c'est à partir de là qu'il nous resitue les endroits qu'il connaît le mieux. Quelques ponts, dont les ingénieurs, respectant le cahier des charges, ont privilégié la robustesse au détriment de l'esthétique, permettent de traverser le fleuve et d'accéder aux quartiers périphériques qui, s'éloignant progressivement de l'épicentre, vont du plus huppé au plus populaire. C'est précisément dans l'un de ces quartiers d'ultime catégorie que nous nous trouvons, un peu plus haut que la gare Viotte entre la cité des Orchamps et la cité des Parcs, à la frontière du quartier des Chaprais et du Dépôt. Loin des vitrines, loin des belles chaussures de luxe, loin des rupins et des bourgeois, loin des militaires et des vicaires, en bordure d'une espèce de no man's land formée par un amas de traverses, de hangars et de rotondes où sont entreposées les locomotives qui ne roulent plus et celles qui de toute façon ne roulent pas. Au pied de ces ferrailles aux ronces entrelacées s'élève un bâtiment trapu et court, court sur pattes, qui fut jadis coquet et que tout le monde appelait l'hôpital du quartier. On y faisait un peu de tout, des services médicaux et de la maternité. Et c'est là qu'il a vu le jour, René Bollet, mon père, le 3 mai 1926, entre les rails et les wagons, les tenders et les tampons, dans les panaches bleutés de leurs lourdes bousines aux déchirants sifflets. Oui, c'est drôle de parler des trains et des traverses. Vous vous souvenez peut-être, la semaine dernière, on parlait de l'Inde et je vous parlais de ces femmes qui, justement, transportaient des traverses et participaient au chantier des trains dans les entrepôts ou dans les chantiers, justement, des trains en Inde. Eh bien, là, le cœur de l'histoire, si on peut dire, c'est justement ce dépôt de la SNCF où il y a les locaux techniques, disons, de l'époque, et puis ce fameux hôpital du quartier qui était le petit hôpital populaire auquel tous les ouvriers, précisément de la SNCF ou les autres, avaient recours. Ce quartier, donc, fut toute la vie de mon père, sa seule map monde, sa scène de théâtre, son unique opéra. Il y grandit, s'y maria, procréa, et il ne l'aurait pas quitté pour toutes les mers du globe et pour toutes leurs îles enchantées. Il y passa sa vie de forgeron. Il y aima l'enclume, la boxe et l'opérette. Et le théâtre par-dessus tout. Donc c'est ça, hein, c'est ça l'histoire du père de Gibolet, c'est l'histoire d'un ouvrier forgeron qui se met à son compte et qui, dans ses loisirs, se passionne pour, comme on dit maintenant, les arts vivants, les arts du spectacle, la boxe et les arts du spectacle. Alors, on va reprendre un peu l'histoire de ce père qui participe en particulier à des spectacles, ben justement un petit peu comme Guy Bollet lui-même, on pourrait dire, de tous les côtés à la fois du théâtre. Lorsque j'étais enfant, Il arrivait que le théâtre municipal de Besançon embauchât mon père, gymnaste et boxeur amateur, pour des petits rôles de fantaisiste, aussi rares que furtifs. De ces rôles de passage que l'on nomme, dans le jargon du spectacle, des utilités. Hercule en jupette, acrobate chinois, portefeu mandarin, bourreau médiéval, clown pékinois ou simple albardier. Je me souviens d'un opéra nommé Faust, de Charles Gounod, c'était écrit dans le programme, dans lequel il apparaissait vêtu d'une sorte de collant intégral, rouge feu, visage cagoulé, oreilles pointues et yeux de braise, collant qui le moulait avec une impudeur totale, d'autant que le costume possédait à hauteur de ses fesses une queue de tissu fourchue à son extrémité. Mon père, à queue de Satan, dissimulé par un rocher en carton-pâte, surgissait lors du spectacle, c'est le cas de le dire, comme un diable de sa boîte, propulsé par je ne sais trop quelle mécanique à ressort ou trampoline miniature, et une fourche à la main, il bondissait par-dessus le décor, se réceptionnait grâce à une roulade de judoka ou de parachutiste, sautait à pieds joints, grotesquement, un peu façon marsupilami, et disparaissait en coulisses en petits bonds simiesques. J'avais à l'époque, je crois, un peu honte de lui. Et un peu plus tard, chez nous, à la maison, cherchant manifestement à imiter les artistes du théâtre municipal qui nous venaient de Paris et qu'il ne faisait que côtoyer le temps de quelques galipettes sans que ceux-ci fassent le moins du monde attention à lui, peu à peu, donc, il se mit à monter pour les voisins du quartier, la plupart ouvriers d'horlogerie ou cheminots de dépôt, de modestes opérettes avec ma mère, son épouse. Ils chantaient bien tous les deux, ils avaient des timbres clairs, des voix pures et veloutées, et de façon totalement innée, sans avoir jamais rien appris, du chant, des partitions, des portées ou d'autres choses, ils faisaient des spectacles pour leurs amis dans les salons de notre quartier populaire. Maman revêtait une robe de chambre ornée de vastes fleurs orangées. Papa se maquillait à l'aide d'un crayon gras pour faire toréador, conquistador, impérator ou fils de Thor. Et vinyles à l'appui, ils s'embarquaient ensemble pour une heure de duo extrait d'un certain nombre d'opérettes triées sur le volet. Le public, ravi, applaudissait. On ouvrait, à l'issue de la représentation, quelques bouteilles de vin mousseux, on mangeait quelques gâteaux que les invités avaient apportés, on grignotait et c'était jour de fête. Béni soit la musique, béni soit l'opérette et que vive à Mexico! Voilà, on l'aura compris, peu ou prou, mon père, il aimait ça, il aimait chanter, il aimait faire des spectacles. Et jusqu'à ce que, un matin de spleen et de vague à l'âme, je revienne de l'école avec un poème à apprendre par cœur, mon père, qui le connaissait déjà et qui le connaissait dès le début, me faisait répéter et me faisait réciter au repas de famille, ne pouvant se retenir de contrefaire le pitre, éventuellement en mimant les vers pour me les apprendre. Mon père, ce héros au sourire si doux, suivi d'un seul housard qu'il aimait entre tous, pour sa grande bravure et pour sa haute taille, parcourait à cheval, le soir d'une bataille, le champ couvert de mort sur quoi tombait la nuit. Et là, soudain, oui, j'ai compris mon père. Malgré ses étourderies, malgré ses pitreries. Mon père, oui, il était ce héros-là. Il était construit du même bois. Il jouait Jésus sur une scène paroissiale à chaque période de Pâques, mais il parvenait aussi à chevaucher les morts qu'il n'était pas et qu'il ne serait jamais. Tous ces morts potentiels qu'il était parvenu à vaincre de son vivant. Alors moi, le petit garçon qui avait grandi, je réalisais tout à coup que mon père n'était pas qu'un artiste amateur, avec tout ce que ce terme comportait de mépris, de suffisance ou de ricanement. C'était un véritable artiste. La vie l'avait taillé pour ça, mais pas son destin. La première, se chamaillant fréquemment avec le second, faisait payer aux hommes les pots cassés de leur divergence entre spectacle et réalité. Et son répertoire, qu'est-ce que c'était ? C'était bien sûr et d'abord les chansons d'amour. Amour gagné, amour perdu, amour volé, vous savez, à l'époque, baisse un peu l'abat-jour, toujours sourire, un cœur pour deux, étoile des neiges, mais aussi mon amour est en voyage, ou bien quoi. Ah ben oui, qu'est-ce que c'était la chanson de Joséphine Baker qu'on a citée l'autre jour ? J'ai deux amours. Vous savez, mon pays est Paris. Alors, donc, tout ça, c'était le répertoire du père. Et le répertoire du père, ben, finalement, le fils le retrouve, évidemment, le retrouve avec des... Comment pourrait-on dire ? Des citations réunies par le père dans un petit carnet retrouvé dans le grenier. Alors, dans le petit carnet retrouvé dans le grenier, Guy Bollet, ou le personnage décrit par Guy Bollet, retrouve en effet un certain nombre de choix du père chanteur et aussi du père boxeur. Alors, pour réunir les deux, le père boxeur et le père chanteur, je vais vous proposer une pause musicale dans laquelle on va retrouver Yves Montand et Yves Montand qui nous raconte l'histoire de Battling Joe. Et Battling Joe, c'est un peu l'histoire du père de Guy Bollet, ce boxeur amateur, si ce n'est que lui, il devient professionnel. Allons-y.
Dans un village noir de charbon, dans les cheminées et les corons, tout petit, il battait ses copains. Il était fier de ses deux poings, presque autant que son père le mineur, qui disait, ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom. L'on avait pas, comme la mode était à l'anglais. Il s'appela Battling Joe. Battling Joe. C'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite. Battling Joe. Il gagna son premier combat, et le soir même avec papa, il prenait le train pour Paris, où un boxeur ça vaut son prix. Battling Joe. Croyez bien en faisant ce truc-là, être plus libre. Mais voilà, qui dit boxeur, dit manager. Le sien avait une poigne de fer. C'était un gars très régulier qui, pour justifier la moitié des bourses de tous ses combats, lui fit mener une vie de forçat. On n'est pas là pour rigoler. Qu'il disait à Battling Joe. Battling Joe. Devint un boxeur redouté, Battling faisait de grosses recettes, Battling devint une grosse vedette. Battling Joe. Les dames disaient tout près du ring, il est délicieux ce Battling. Et elles admiraient son moral, sans penser que les coups ça fait mal. Battling Joe. Battling devint un grand champion, jusqu'au triste soir où un nion lui embrouilla soudain les yeux. Le manager dit, c'est pas sérieux. Tu deviens feignant, fais ton métier. Boxe, ça rime pas avec pitié. La foule eut peut-être tort ce soir-là de siffler la fin du combat, malgré les lampes et leurs éclairs. Battling Joe. Et Joe ne voyait plus clair. Battling Joe. C'est un nom maintenant oublié, une triste silhouette qui penche, appuyée sur une canne blanche. Battling Joe a tout perdu en un seul soir. Ses yeux sont titrés son espoir, mais il sait comme consolation son manager a d'autres champions. Battling Joe.
Battling Joe. Eh oui, Battling Joe, vous avez entendu dans l'introduction de la chanson, c'est l'histoire d'un boxeur issu d'un pays de mineurs. Alors évidemment, le père de Guy Bollet, ou du moins le père du narrateur de Guy Bollet, il n'est pas mineur, il est forgeron. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent dans cette espèce de destin. Le père de Guy Bollet donc, n'est pas boxeur professionnel, il est boxeur amateur. Et puis tout de même, il y a une grosse différence, c'est qu'en même temps qu'il est boxeur, on vient de le voir dans le début, il a un véritable goût des mots, de la littérature, du théâtre, du spectacle. Et donc, il passe sa vie, finalement, surtout sa jeune vie, entre le goût des mots et le goût du ring. Mais c'est vrai que j'avais choisi donc, la chanson « Battling Joe » parce que ça donne bien une idée de précisément ces prolétaires qui, pour sortir de leur milieu d'origine, trouvent un rôle différent. Alors oui, bien sûr, les boxeurs. Et puis, vous savez, les toréadors en Espagne, quand on est pauvre, nous dit-on dans d'autres chansons, on va torer pour trouver la réussite et rencontrer au fond l'image de cette réussite. Alors, le père du narrateur de Guy Bollet, il a donc deux volets, on pourrait dire, à son évasion. Ce sont la littérature et le théâtre et la boxe. Alors, on va revenir sur ces deux volets par quelques extraits de lecture. Donc, d'abord, les mots. Il lit beaucoup, mon père. Quel âge peut-il avoir? Entre 14 et 15 ans? Allez, disons 14 et demi. Et elle n'aime pas ça, sa mère, les livres. Elle dit que ça vous zigouille les méninges et que ça abîme les yeux. Raison pour laquelle elle l'a inscrit, au début de l'année scolaire, au club de boxe, pour faire de lui un homme. Bon, elle aurait pu l'inscrire à la fanfare municipale, puisque son père, enfin ce père disparu, avait été musicien, joueur de cornet à piston, et que ce cornet à piston, il est toujours là, dans son étui noir, au-dessus du buffet de la salle à manger. Elle a hésité entre la fanfare et la boxe, mais elle a choisi la boxe. « Allez, comme ça, au moins, tu vas devenir un homme !» T'as pas encore fini avec tes conneries de lecture? Alors lâche-moi ça, va prendre l'air et va faire de l'exercice. Oui, maman. Oh, le père, c'est sûr, il obéissait à sa mère. Il lui donnait beaucoup de. Enfin, il lui rendait beaucoup de services. Il obéissait et là, ce jour-là, par exemple, il refermait son livre, il enfermait. Ce livre dans un petit sac, et il sortait avec, après avoir enfilé son gilet de laine beige. Il descendait les escaliers, longeait le muret et allait s'asseoir, dehors, sous le linge qui sèche. Il adore ça. Et d'ailleurs, moi, son fils, j'en ai hérité de son amour des draps. Et par exemple, ce jour-là, il joue avec quelques pinces en bois, il rêvasse, il empoigne un de ses maillots de corps bleutés que l'on nomme Marcel. Il les change de place, il les troque contre un corsage, il s'amuse à dépendre ce qui sèche pour le rependre ailleurs, ordonnant à sa guise matières et couleurs, faisant alterner chaussettes grises et boléro jaune, imaginant des associations qui lui sont visuellement agréables ou symboliquement agréables. Un oreiller et des gants de toilette pendus côte à côte, parvenant par exemple à symboliser l'alliance de la nuit et de l'aube, de la journée et des activités. Il aimerait demeurer ainsi jusqu'à la fin de ses jours dans le grand silence de la lessive qui sèche, s'épargner la pesanteur des ans, la lourdeur des autres. Il aimerait cesser de subir ce qui lui paraît déjà désagréable, c'est le poids pesant d'une forêt d'enclume. Une forêt d'enclume, oui, puisqu'il est déjà apprenti forgeron. Pas grave. C'est un artiste, mon père. Il est né comme ça et il n'y est pour rien. Il est sensible, il est créateur, il est naïf, il est orgueilleux, il est entêté, innocent, fragile, mais responsable. Sans doute un médecin de l'âme trouverait-il des raisons oedipiennes à son extrême sensibilité dans le creuset du père absent et de la mère trop présente. Peut-être n'aurait-il pas tort, car son père lui manque terriblement. Il ne l'a pas connu, il sait seulement qu'il soufflait quelquefois dans cette sorte de trompette au sein de l'harmonie municipale, et qu'il fut écrasé, et oui, le cheminot, paf, entre deux wagons, comme une crêpe, le pauvre. Enfin, ça, c'est ce que raconte la mère, effectivement. La figure paternelle, condensée à l'extrême, pourrait ressembler à ça. Un peu de vent et un corps plat comme une image, une véritable aubaine pour un psychanalyste. Il rêve fréquemment d'un père artiste, oui, l'Apollon du dépôt ouvert et débonnaire, lui apprenant depuis son trône comment poser ses doigts sur les petits cylindres du cornet à piston qui montent et qui descendent afin que l'air circule et engendre des notes, des arias, des musiques, des chants, enfin des océans de paix, des mondes parallèles où tout n'est que luxe, calme et volupté, comme l'écrivait Baudelaire, qu'il n'avait pas encore lu. C'est son problème, les mots, à cause du père inconnu qui s'est fait écraser, paf, entre deux wagons, comme une crêpe, le pauvre. Avec la mère, contrainte d'aller faire des ménages chez les riches bourgeois du centre-ville, et puis lui, bah pour lui, l'école au rabais et l'apprentissage, donc, chez le premier patron qu'on lui a trouvé, forgeron serrurier, on aurait pu trouver pire, et ensuite entrer dans la vie active, bah oui, à 14-15 ans, l'âge légal, parce que ça fait un salaire de plus à la maison. Alors là, par la fenêtre ou sous les draps, avec un joli soleil d'hiver qui trimballe dans ses rayons la suie des locomotives, bah oui, il y en a partout de cette saloperie, surtout par vent d'ouest, sur les rebords des fenêtres, sur les cordes à linge. C'est l'équivalent du sel chez le paludier, de la sciure chez le menuisier, du sable chez le touareg. C'est la suie des locomotives derrière le dépôt SNCF à Besançon. Quelque chose de l'infiniment petit révélant l'infiniment grand, mais il ne le voit pas, perdu qu'il est dans l'insondable mystère des mots. Ce jour-là, le père, il referme le livre, il croise sa mère qui sert le couloir, il se fait discret, il marche sur la pointe des pieds pour ne pas salir, pour ne pas se faire repérer. Il descend les escaliers, il déambule en rêvant le long du muret. Il s'assied sous les grands draps qui sèchent. Il contemple la courette en pensant que si courette est le diminutif de petite cour, on devrait dire ruette pour une petite rue alors qu'on dit ruelle. Ah, décidément, les voies de la grammaire, semblables à celles du Seigneur, sont impénétrables. Oui, le jeu des mots, le jeu du dictionnaire, c'est vrai que le père de notre narrateur aimait beaucoup ça. Et le jeu des mots, bah, il s'y essaie, mais entre les séances de boxe. Il fera donc de la boxe, puisque sa mère le veut. C'est le sport populaire, le sport des prolétaires qui veulent réussir. N'importe quel cheminot, bleu de chauffe au corps, casquette sur l'oreille, gauloise au bec et gamelle en bandoulière, est à même de citer sans froisser une voyelle ni malmener une consonne les noms des grands champions qui font vibrer les cordes et frissonner les rings, surtout ceux de chez nous qui ont coqueriqué en terre d'Amérique. Les Carpentiers, Cerdan, Dautuil, Villemain et bien sûr, sans omettre Marcel Thil, fils de forgeron. On écoute leur combat, l'oreille collée au poste de TSF, car la boxe, longtemps, ne fut qu'affaire de voix, fréquemment nasillarde, de coups de poing assénés sans qu'on en voie un seul, de corps qui s'écroulent sans que l'on puisse vraiment entendre la chair ou les os s'affaler, tant la foule en délire couvre jusqu'à la voix du speaker qui s'appelait alors tout bonnement commentateur. Ça fait des hommes, la boxe, affirme la mère du narrateur. Tout comme l'agneau, les tranchées, l'enclume et le pas de loie. C'est pour ça qu'elle l'a inscrit au club, afin qu'il entre en costaud dans le troupeau des mâles, qu'il accède à l'âge adulte en gentleman couillu. Sa plus grande peur est que son fils devienne quelqu'un d'efféminé. Elle sait que les gamins du quartier lui mettent parfois des baffes et que lui, indolent, ne répond jamais. Il faudrait qu'il sache faire la différence entre gentillesse et faiblesse. Alors mettons-le à la boxe, se dit-elle. Ça lui apprendra, dans un premier temps, sinon à frapper, du moins à esquiver. Le reste finira bien par suivre. Si l'angoisse de sa mère quant au risque qu'il ait pu devenir un adulte freluquet, voire efféminé, n'était guère fondée, elle eut un coup de génie en l'inscrivant au club de boxe. Car il sentit dès les premières séances qu'il aimerait ça. L'ambiance, l'odeur, la sueur, le martèlement des poings, les rotations du buste et les pas de retrait. Les entraînements, bien sûr. Taper dans les pattes d'ours ou dans les punching balls, apprendre à esquiver, donner sans recevoir, se battre contre son ombre. Ces pressentiments trouveront leur apogée lors de son premier match et de ceux qui suivront. L'enfance qui s'épanouit dans le goût des victoires, cette certitude d'être en tout point semblable aux héros de cinéma, ceux qu'on trouve au rayon film de cap et d'épée ou film de héros. Après tout, c'est un peu comme l'escrime, la boxe, avec une paire de poings en guise de fleuret. S'il fallait la décrire en termes de danse, il nommerait ça un pas de deux. Mais il ne faut pas avouer des choses pareilles à son bulldog de mère pour qui la danse entre hommes est une activité douteuse. Alors, il imagine ce qu'il pourrait lui dire sans la faire frémir et qui la ferait pâmer. Ce ring qui sous ses pieds tremble autant que les corps. Ces cordes qui renvoient les boxeurs les uns contre les autres. Car bien sûr, c'est une affaire de chair ce que l'on nomme un combat. Dans des odeurs de sueur ou bien d'embrocation, avec des mains bandées qui ressemblent à des masses, avec ses nez qui fument quand un gant les écrase. Ça ressemble à la forge. Il faut juste s'arranger pour que celui d'en face soit moins dur que l'enclume. Et plus il imagine et plus les images défilent. Un match n'est pas que danse, c'est aussi quelquefois un manège insensé qui sous vos pieds tournoie avec un cheval fou qui cherche à vous abattre. C'est une vie d'artifice que résume en fusée des rounds de 3 minutes. On ne perd pas de temps quand on combat. On ne babille pas, on ne tergiverse pas. On se dit l'essentiel en 2 coups, 3 crochets. On sculpte l'éphémère, on écrit en saignant le seul roman qui vaille. On a besoin de personne pour dicter les phrases. Elles jaillissent des phalanges, percutent les mâchoires, déforment les orbites. La minute de repos qui stagne entre les rounds nous apprend seulement qu'on est encore vivant et qu'il va nous falloir repartir au combat dans cette lutte animale et primale qui augure sur le ring ce premier cri humain que chacun doit pousser pour que périsse enfin le singe qui dort en lui. Ce n'est rien d'autre que ça, la boxe. L'adrénaline, fleur de lysée. Sur liberté incandescente, une vie d'éclair, de rédemption, un naufrage sans radeau, où celui qui se noie n'ira pas plus profond que le bleu du tapis. Elle est bien loin de ce que d'aucuns en disent. Sport violent où 2 tas de viande abrutie se martèlent le visage? Non. La boxe n'est pas un jeu. On joue à la raquette, on joue au ballon rond, mais on ne joue pas à la boxe. C'est pour ça qu'on l'appelle le noble art. Car il faut de la noblesse pour monter sur un ring. Il faut même être artiste pour bien savoir boxer. La beauté du coup de poing demeure autant dans l'esquive du frappé que dans la dextérité du frappeur. C'est ça qu'il lui dirait à sa diablesse de mère, si seulement il pouvait l'exprimer en ces termes, si seulement il pouvait lui parler de temps en temps. Voilà, c'est un extrait sur la boxe, en effet, et on va continuer avec des extraits sur les mots. On va revenir à ses amitiés et même à ses amourettes et aussi au travail de la forge dans quelques minutes. L'enfance du père, entre guillemets, l'enfance du père qui devient Dieu, n'est-ce pas, dans l'histoire du narrateur de Guy Bollet. L'enfance du père, nous dit-il, se passe donc entre la boxe et le linge qui sèche. Les escaliers cirés, le cornet à piston, le père en uniforme, prisonnier dans son cadre. Et le dictionnaire que manipulait son père et qu'il reprend, bien sûr. Ces mots échevelés dont nul ne sait user. Et puis il y a aussi la forge, ses masses et son enclume, et puis derrière les rails du dépôt. Tableau d'une enfance qui serait triste et vide s'il n'existait pas un humain pour lui donner une âme. Et l'humain, pour René, pour son père, pour Dieu ce jour-là, se condense en un seul mot, Pierrot. Pierrot, l'ami des origines, le copain de toujours, le frère incontournable. Et oui, parce qu'ils sont tous deux comme Oreste et Pylade, ou Castor et Pollux, unis du berceau au tombeau. De la pointe d'un canif, ils ont piqué leurs doigts et mélangé leur sang, à la vie, à la mort. On connaît la formule qu'avait écrite Montaigne lorsqu'il tentait de dire pourquoi la Boétie avait empli son cœur. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et vice-versa, ça va de soi. C'est l'image qu'on aura désormais dans le quartier entre René et Pierre. Deux lières, eh oui, deux lières, mythologiquement enlacées. Pierrot, physiquement, est plutôt malingre, chétif, filiforme, timide. Mais lumineux, passionné de mécanique, toujours une clé à molette à la main et un magazine de la Revue Technique Automobile dans une petite sacoche ou dans une poche. Il bricole les moteurs, il répare les bobinettes, il fabrique des maquettes qu'il tente de faire rouler, voler, flotter. Et même en dehors de ça, eh bien, il est comme René, il a le goût de la parole écrite. Ils ont tous deux, côte à côte, dévoré les romans de jeunesse et les livres d'énigmes, les Jules Verne, les Alexandre Dumas, les Jack London et autres aventuriers des lettres. Jusqu'à ce que mon père finisse par se lasser des choses romancées et qu'il ne jette son dévolu que sur son héritage, un seul ouvrage, Le Petit Larousse illustré. Pierrot, lui, préfère les dieux. Sumériens, Acadiens, Égyptiens, Grecs, Romains. Ils se passionnent pour la mythologie, ils déclament à voix haute toutes leurs épopées, ils vénèrent l'Iliade et l'Odyssée, et il n'aura bien plus tôt en bouche que Achille et Patrocle ou Charybde et Scylla. Puis, découvrant que les hommes et les siècles, entre schismes et massacres, sont parvenus à condenser tous les dieux en un seul, Dieu unique et créateur, il approuvera le choix des mythologies en croisant ses ouvrages de référence avec ce qui deviendra pour lui la lumière de sa vie, la Bible. Alors, assis l'un près de l'autre, chacun un livre en main, ils sont là, unis dans cette tendre amitié qu'on dit adolescente. Pierrot s'abreuve de sirènes, de cyclopes, de Circé et donc de mythes bibliques. Tandis que mon père, plongé dans le dictionnaire, le coupe brusquement dans sa lecture et dans ses rêveries. « Pierrot, ectropion, tu sais ce que c'est ?»« Non. » »« Ectropion, nom masculin, du grec « ec », hors de, et de « tropen », tourner. Et alors ça veut dire quoi ?»« Eh bien, je te lis comme c'est écrit. « État des paupières renversées en dehors. »« Des paupières retournées ?»« Ben oui. » Et on l'utilise, ton mot ? Bah, je sais pas. Non, mais attends, tu te vois dire à quelqu'un « Comme c'est étrange, cher monsieur, vous avez les paupières en ectropion. » Bah oui, et pourquoi pas s'il a effectivement les paupières en ectropion ? Autant qu'il sache ce qu'il a. Oh, attends, tu dirais ça, tu te prendrais une mandale. Bah, je m'en fous, je fais de la boxe. Bon, bah, va falloir faire gaffe, hein. Ah, et puis là, Berthe. « Gaffe, tout de suite, planquons nos bouquins, elle arrive. Qui ?»« Bah, ta mère, pardi. » »« Eh oui, la mère, on l'a dit tout à l'heure, elle aime pas les livres. » Et elle leur dit « Bah alors, vous avez pas bientôt fini, non ? Avec vos conneries de bouquins et de romances à la con, à perdre votre temps, à vous user les yeux, il serait peut-être plutôt temps de se mettre aux choses sérieuses. Ah, il faut que je vous botte le cul pour vous faire grandir ?» René n'ose répondre. Mais heureusement, Pierre est là, à ses côtés. Malgré sa silhouette malingre et chétive, il possède un cœur d'une limpidité telle qu'il peut, en une seule phrase ou en un simple sourire, adoucir le volcan de la mer fut-il en éruption. Alors, Pierrot se lève, et on dirait Saint François s'adressant aux oiseaux, d'un geste mince mais ample, il parvient à calmer le Vésuve en furie. Pierrot, le merveilleux, eh oui, tout l'opposé de René, mais aussi son quasi-frère jumeau, son compagnon de toujours, d'enfance, de quartier, de maternelle, d'école communale, de lettres tracées à la plume, sur du papier à carreaux, ou à la craie, sur le tableau noir ou vert. Amitié de blouse grise, de bal aux prisonniers, de cours de récré. Amitié de bise en terre, d'agate rare et de goûter, de confidences graves et de secrets légers. Ils ont fait au même âge ou presque les mêmes sottises. Ils se sont fait gronder par notre matrone de service. Et ils ont chapardé des bonbons, cassé quelques carreaux à l'aide de frondes qu'ils appelaient des totoches. Ils ont déchiré leurs pantalons sur les ronces du chemin. Ils ont ourlé leurs chemisettes de quelques accros. Et puis, en grandissant, ils ont naïvement lutiné aux fêtes paroissiales les fillettes rieuses qui, sur leur balançoire, prenaient de grands élans en mouvement de hanches et tentaient d'entrevoir, émerveillées, fébriles, leur chair au tic-tac d'encensoir qui dévoilait au vent le mystère émouvant de leur culotte blanche. Eh oui, ça nous renverrait à Yves Montand, ça, vous savez. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche, mais ça sera pour une autre fois. Alors, vous avez compris, bande de morveux, dit la mère. Faut que j'aille vous botter le cul pour vous faire grandir. Eh bien non, ils ont grandi et par exemple René est devenu forgeron. Eh oui, il devait avoir 20 ans à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il venait de déposer ses armes au pied des bâtiments en ruine. Et de même que les lauriers avaient été déposés au pied des monuments aux morts, il lui fallait reconstruire la France et en même temps bâtir sa propre vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Fallait grandir ? Oui, grandir, grandissons. Travailler ? Oui, travaillons. Il a obéi à sa mère, à la vie, à la petite et à la grande histoire. Et donc, il a obéi au destin en devenant forgeron. Phalange et sac de frappe, forgeron et boxeur. Alors, forgeron, oui, par exemple, il fait plutôt frisquet en ce mois de février 46. D'entre les lèvres de mon père émergent de petits nuages glacés, aussi légers qu'insaisissables, et ça le rend heureux. Il se jure d'être serein et de mener à bien le travail qu'il attend, forger une balustrade. Il se baisse, se saisit d'une barre de fer engoncée dans la terre, ourlée de givre, voire de glace, un gant à main droite, usé, râpé, genre truc de jardinier, peut-être une moufle, d'ici on voit pas bien, enfin un machin quelconque pour se protéger la main. Il tire sur la barre sertie de la terre gelée, il ne parvient pas à l'en décoller. Bon, il se dit que tout va bien, à quoi bon s'énerver ? Allons, un pied sur la ferraille, on se coince la main, on tire davantage, on appuie, on relâche, on secoue avec énergie. Ouf, on ressent une douleur dans le dos, le maudit gant glisse, enfin. Il habite et travaille près du dépôt des locomotives. On entend une locomotive au loin, oui, dire mugir. Et un panache de fumée noire qui part à la verticale derrière la haie. Un coup de rein, oui, deux... Ah, et voilà la barre couverte d'une glaise aussi dure que de la pierre, mais ne pas s'énerver et puis se retourner. De petites étincelles apprennent que la forge de bon matin a été allumée. Il s'en approche, un coup de soufflet pour raviver les étincelles, étrangement belles en ce matin d'hiver. Contempler les étincelles, retenir sa respiration. Une vie merveilleuse, finalement, dans sa monotonie. Et oui, mon père, c'est un candide, un teigneux sensible, des larmes au bout des doigts. Un éternel enfant, un orphelin brimé par sa mère, un amoureux des mots, qui ne peut néanmoins pas plonger comme il le voudrait dans la tiédeur des océans de l'être, puisqu'il faut aussi, oui, forger. Un enfant contrarié, autodidacte, mais conquérant. Il pose la barre gelée dans le cœur de la forge, la love, tel un serpent au soleil, la retire et la frappe sur l'enclume, étincelle, escarbille. De ça non plus, il ne se lasse pas. Il cesse de rêvasser et il martèle à grands coups. Pas méchamment, c'est son métier. D'autant qu'il lui reste pas mal de volutes à forger pour achever la balustrade qu'on lui a commandée et qui doit être livrée samedi. Combat quotidien de l'artisan contre la fuite du temps. Et quelques heures plus tard, non, il n'a pas chômé, de l'amas de ferraille qui gisait au sol entre givre et argile, il y a désormais surgi une balustrade aux volutes espagnoles qu'il admire en se disant « Ah, ça a de la gueule !» Aucun orgueil. Un léger coup de lime pour enlever une bavure, un soupçon d'anti-rouille orangée que l'on nomme « minium », deux petits pas de recul, façon Velasquez contemplant ses ménines, et toujours derrière les bruits de locaux comme fond sonore. Alors, elle n'est pas belle, la vie ? Sur un tréteau métallique de sa baguette électrisée, il pose un point de soudure, à la rougeur duquel il allume une cigarette. Il en tire quelques bouffées et il prête l'oreille, oui, au hurlement des locomotives qui freinent sur les rails d'acier, au couinement de fronte tordue, à la tachycardie des bielles. Derrière, c'est le dépôt. Il tire sur sa cigarette, il contemple l'acier et ça lui donne envie de vivre, de chanter, de boxer, d'évacuer toutes ces larmes qui vibrent au fond de lui, de les choper une par une et de les foutre KO. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il a entraînement ce soir. Le combat se rapproche. Et non, c'est toujours important. Ce soir, c'est un petit combat, mais enfin un entraînement pour un petit combat. Mais finalement, les combats, il n'y en a pas de petits. C'est juste un de ceux qui a bouté et gagné, prélude au championnat suprême. Celui pour lequel tout boxeur, digne de ce nom, accepte de croiser les gants. Celui dont la victoire vous met la ceinture à la taille et inscrit votre nom au panthéon de la boxe. Encore quelques années ou même quelques mois, et à n'en pas douter, même en amateur, ça va finir par arriver. Il boxera comme un professionnel. Il aimerait tant que sa mère soit enfin fière de lui et qu'elle le considère autrement que comme une esquisse d'homme. Il ne sait pas encore vraiment que, à défaut d'une mère, ce sera son fils plus tard qui arrachera au petit Larousse des mots d'or et de jade, de porphyre et de marbre pour le glorifier, pour le déifier. Eh oui, Dieu, quand Dieu boxait en amateur. Donc c'est Guy Bollet qui, par son narrateur, va sanctifier le nom du père sur cet autel païen qu'on nomme littérature. Et en littérature, ben on vous retrouvera la semaine prochaine avec d'autres récits, d'autres aventures. Et alors en plus, à la fin de la semaine prochaine, il y a la journée mondiale contre le racisme et le fascisme. Alors à Marseille, ça sera une manifestation Porte d'Aix le samedi 22 mars, mais on en reparlera la semaine prochaine. Donc je vais vous laisser avec notre générique. Que Zélie va nous renvoyer. Et à bientôt, bien sûr, pour d'autres aventures littéraires, contestataires et bien sûr passionnantes. À bientôt.
Here's a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa roho yangu.